Un riz riche en vitamine A qui permettrait de sauver des enfants de la malnutrition, un maïs dont les rendements sont bien plus élevés, un coton qui résiste mieux aux attaques des insectes. Voici quelques exemples de plantes transgéniques apparues sur le marché et utilisées par un petit nombre d'agriculteurs. Des plantes qui suscitent l'enthousiasme dans la perspective de la lutte contre la faim, ou bien des réserves quant aux menaces potentielles qu'elles représentent pour la santé humaine et l'environnement. Pourtant, ces plantes semblent être appréciées dans les pays en voie de développement. C'est l'avis du professeur Van Montagu de l'université de Gand, qui a longtemps travaillé sur les OGM.
On le voit pour le coton. Le tiers-monde a accepté le coton transgénique déjà à 70%. Parce que ce n'est pas seulement meilleur marché pour eux, ils ont un meilleur rendement, mais surtout les agriculteurs eux-mêmes et les enfants qui surtout doivent aider à la vaporisation d'insecticides ont beaucoup moins de problèmes de santé parce que ces insecticides sont toujours plus ou moins toxiques. Et on le verra encore beaucoup plus en Inde, avec les aubergines résistantes à l'introduction d'un gène aussi de la même catégorie qu'on appelle Bacillus thuringiensis, des aubergines qui font leur propre insecticide, parce que là, c'est une neurotoxine qu'on emploie toujours, malgré que ce soit interdit. Et donc, c'est urgent que cette résistance contre les aubergines transgéniques soit expliquée aux autorités et à la population, parce que c'est extrêmement important.
Les fabricants d'OGM de puissantes multinationales font face, entre autres en Europe, à une levée de boucliers de la part notamment d'organisations écologistes. Parmi ces entreprises, Monsanto tente de convaincre la population de ses bonnes intentions. Son objectif déclaré est de diminuer l'impact de l'agriculture sur l'environnement et d'aider les agriculteurs. Un mensonge, selon la journaliste Marie-Monique Robin, auteure du livre Le Monde selon Monsanto, résultat d'une longue enquête sur ce semencier américain.
L'argument de Monsanto consiste à dire que ces plantes vont sauver l'humanité et nourrir la planète. C'est un mensonge éhonté. Donc j'ai vraiment voulu comprendre s'il y avait un avantage ou pas pour les agriculteurs. Il n'y en a pas du tout, c'est tout le contraire. Les OGM, c'est ce que j'ai vu au Canada ou en Argentine là récemment, ça conduit à la monoculture. Et la monoculture, c'est tout le contraire de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, elle passe par la biodiversité. Elle passe par une grande diversité de cultures faites par des agriculteurs, véritablement des agriculteurs, pas des gens qui font de l'agro-business, vous voyez, qui ont transformé la nourriture du monde en ce qu'on appelle en anglais des commodities, vous savez, des biens qu'on vend. On a besoin d'une agriculture familiale, diversifiée. Et c'est tout le contraire, je vous assure, ce que j'ai vu partout en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Asie. C'est un modèle agricole qui va dans la même ligne que la première révolution verte, c'est-à-dire un modèle agricole de monoculture avec une grande consommation d'intrants, des engrais, des pesticides, etc. Des semences très chères parce qu'en plus elles sont brevetées. Et en plus comme elles sont brevetées, vous êtes obligé d'acheter tous les ans de nouvelles semences, sinon Monsanto vous poursuit, c'est ce que j'ai vu au Canada, où ils ont créé la police des gènes, vous vous rendez compte, ils envoient des détectives privés dans les champs pour vérifier que les paysans ont bien racheté leurs semences parce qu'ils n'ont pas le droit de garder une partie de leur récolte pour ensemencer leurs champs l'année d'après. C'est pas ça qui va nourrir le monde.
Pourtant, face à l'accroissement de la population mondiale, la perspective de meilleurs rendements doivent plaider en faveur des OGM. C'est l'avis du professeur Van Montagu.
Beaucoup de gens encore croient qu'on peut se passer d'une agriculture à haut rendement, que la population mondiale a triplé après 45, en 50 ans, et donc il faut une agriculture qui aussi triplé le rendement. C'était la révolution verte, mais la révolution verte, ça a donné cette augmentation de rendement, mais ce sont des plantes qui ont besoin de pas mal d'engrais et d'eau. Et donc, croire pour l'avenir, quand on ne restera pas à 6,5 milliards, mais on atteindra 8 ou 9 milliards, comment de nouveau augmenter ce rendement? Donc, on a des plantes qui emploient beaucoup mieux les engrais synthétiques qu'on donne. Ainsi, ne retrouvent pas dans les effluents, dans les rivières, dans les estuaires des grandes rivières et donnent des problèmes de pollution. Là.
Mais cet optimisme n'est pas convaincant pour Christophe Noisette. Il est rédacteur en chef de la revue d'InfoGM, une association créée en 1999, ayant pour but de fournir les informations les plus précises et les plus circonstanciées sur les OGM. Et ce, pour que les gens puissent intervenir dans le débat sur les plantes transgéniques. Selon lui, l'approche purement quantitative du problème de la faim est trop réductrice.
La faim dans le monde n'est pas qu'une question agronomique, c'est aussi une question politique, sociale, c'est une question de répartition des richesses, c'est une question d'infrastructure, c'est une question de marché international. Quand on exporte les ailes de poulet européens en Afrique, au Cameroun, on pourrait mettre tous les OGM qu'on veut au Cameroun, on aurait toujours des poulets moins chers qui arriveraient aux frontières à Douala et les paysans africains ne pourraient pas produire par eux-mêmes et donc ils ne seraient pas dans la capacité de s'auto-nourrir. Et là, actuellement, comme dirait la FAO, on peut nourrir 6 milliards d'individus et on pourra à terme nourrir 9 milliards d'individus. Mais pour ça, il faut déconcentrer l'agriculture et redonner aux paysans les moyens de produire par eux-mêmes, de produire leurs semences, d'échanger leurs semences. Alors qu'avec les OGM, par exemple, la question de l'échange des semences est complètement bridée par le biais des brevets.
Autre point qui ne semble pas tout à fait éclairci, l'impact de ces OGM sur l'homme et sur la nature. Selon les études menées par les fabricants, il n'y a aucun souci à se faire. Mais ces études scientifiques sont trop limitées selon Marie-Monique Robin, exemple avec du soja transgénique produit par Monsanto, capable de résister au désherbant Roundup produit par le même Monsanto.
L'étude qui a permis ça, c'est une étude que Monsanto a payée de 28 jours sur des rats adultes. En plus de cela, on a accès qu'au résumé des données de l'étude. Alors, vous voyez, on n'a pas non plus accès aux données brutes des études. Il n'y a pas d'études sérieuses, il n'y a pas d'études indépendantes. Et les seules études qui existent, ce sont des études payées par le fabricant, par Monsanto, qui sont des études très courtes. Alors, 28 jours pour le soja, c'est absolument ridicule, parce que si vous voulez mesurer l'impact toxicologique éventuellement d'une plante, d'un aliment, il faut au minimum 3 mois pour mesurer la toxicité aiguë, hein, et puis 2 ans pour mesurer une éventuelle toxicité chronique. Et ça n'a jamais été fait, jamais.
Autant de zones d'ombre qui ne plaident pas en faveur des OGM. Une des perspectives les plus prometteuses de ces plantes transgéniques, c'est leur intérêt pour la médecine dans des lieux confinés comme les laboratoires. Des molécules utiles à la fabrication de médicaments peuvent ainsi être fabriquées sans risque pour l'environnement. Mais il ne s'agit plus là de nourrir la population.